Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Mag diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio évidemment. Ça va Sarah?
Ça va, en forme aujourd'hui.
Aux accueils sur ce plateau, un homme dont le regard bleu acier est aussi aiguisé sur la littérature qu'il peut l'être sur le cinéma ou même la musique. Il se nourrit de tout ce que la culture a à offrir afin de concocter des émissions aux petits oignons pour des téléspectateurs toujours avides d'esprit et de découverte. Bonjour Augustin Trapenard.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous.
Bonjour Sarah.
On est ravis de vous avoir. France 3 diffusera un documentaire exceptionnel et inédit, Sardou Autoportrait, consacré évidemment à l'immense chanteur populaire qui fait actuellement ses adieux à la scène, un documentaire réalisé par Nicolas Maupier, dont vous êtes à la fois la voix off, donc le narrateur, et l'intervieweur, puisque Michel Sardou vous a reçu dans son manoir en Normandie pour un long entretien. Ma première question va être simple, est-ce qu'au moment de rentrer dans ce manoir, on va le voir à l'image qui est très impressionnant, vous étiez un peu intimidé quand on rencontre un monstre sacré comme ça de la chanson?
Moi, mon métier, c'est de ne pas être intimidé, justement, et de faire en sorte que l'invité toujours se sente bien et puisse délivrer sa parole. Vous savez, la parole de l'artiste, c'est une parole compliquée. C'est pas la parole du journaliste, de l'expert ou du politique, c'est une parole qui tremble, qui trébuche, même Michel Sardou. Intimidé, non, parce que j'ai grandi avec Michel Sardou. Il faisait vraiment partie de mon environnement familial.
Vos parents écoutaient ça aussi,
Je connaissais pratiquement.
C'est quoi votre chanson préférée de Sardou?
Je vole. Mais moi, vous savez, je vais vous dire, Enrico Macias et Michel Sardou, Michel Thor également, je connais toutes les chansons par cœur. Et quand je les ai reçues, à chaque fois, ils étaient très très étonnés de me voir aussi calé. Et j'ai pas été impressionné, je vais vous raconter pourquoi. Parce que quand on arrive dans la maison de Michel Sardou, il y a un perroquet. Et il y a un perroquet qui chante les lacs du Connemara. Et la femme de Michel Sardou dit, je peux plus me la voir cette chanson. Donc j'ai eu un fou rire. Et l'interview a pu bien commencer. Dans le jardin, il était ce jour-là.
Et il chante vraiment, vous l'avez entendu.
Je l'ai entendu siffler et chanter les lacs du Connemara.
Incroyable. Et alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, c'est que Michel Sardou, il n'y a pas d'attaché de presse qui vous disent comme parfois, attention, pas telle question, pas telle question. C'est complètement open avec lui, vous pouvez demander ce que vous voulez.
Je vais même aller plus loin. Avec moi, c'est toujours open, sinon je ne fais pas l'entretien.
D'accord.
Je me souviens par exemple que Woody Allen voulait faire une interview sur France Inter le matin à 9h lorsque je tenais cette émission quotidienne culturelle qui s'appelait Boomerang. Et j'avais refusé l'entretien précisément parce qu'on me demandait de ne pas poser certaines questions.
Oui, des conseils.
Et autre exemple, quand Timothée Chalamet avait été interviewé par mes soins sur France Inter, l'attaché de presse était intervenu dans l'émission qui était enregistrée et j'avais laissé cette séquence-là pour bien montrer en fait quand même une forme de liberté. Si vous voulez. On ne peut pas faire un entretien si jamais il est contrôlé. Surtout quand on essaye d'aller un peu plus loin, d'aller chercher une intimité, d'aller chercher quelque chose qu'il n'a pas dit auparavant.
On va poursuivre cet entretien dans un instant, Augustin. On va parler évidemment du documentaire, on parle de La Grande Librairie, du reste de votre actualité. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre.
Ah.
Sarah, on démarre ses infos médias. Donc, Augustin Trapenard attend avec impatience, avec Frédéric Lopez, une triste nouvelle qui a confirmé souffrir d'une maladie évolutive de l'oreille.
Et oui, j'ai des acouphènes en permanence, c'est ce qu'il dit dans un entretien accordé à Nice Matin.
C'est Yann Barthès là, mais c'est pas grave, on va le changer.
Bah, oui, s'il vous plaît. L'animateur d'Un Dimanche à la campagne indique souffrir de l'autospongiose, qui est une maladie des os de l'oreille qui lui a fait perdre l'audition totale du côté droit et partielle du côté gauche. Il entend encore à 50%. Il porte désormais un appareil auditif. C'est compliqué, dit-il, quand son métier, c'est d'écouter. Mais c'est comme ça, je l'accepte. C'est ce qu'il a déclaré à nos confrères.
On voit de plus en plus, depuis des années, des personnalités, Jean-Pierre Pernaut notamment, était un exemple, paix à son âme, qui n'hésitent pas à dévoiler leur maladie, peut-être de peur que les réseaux sociaux s'en emparent, pour maîtriser. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous feriez pareil, Augustin, s'il y avait ça, ou vous préfériez essayer d'être discret, quitte à évidemment ce que ça sorte sans contrôle, quoi.
Vous savez, c'est drôle, pour moi, c'est pas une parole qui se libère, c'est plus une écoute qui se libère. Et vous citez cet exemple, moi je pense à la parole d'un Panayotis Pascaud, par exemple, qui publie un livre où il parle de santé mentale. Et d'entendre un jeune homme d'une vingtaine d'années parler de santé mentale, quand on est un jeune homme, justement, justement, ça m'a paru très intéressant.
Moi, ouais, avant, on le gardait, ça, c'était tabou.
Moi, je me réjouis, mais je pense que c'est plus une question d'écoute, si vous voulez, qu'une question de prise de parole. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui est capable d'entendre cela. Je ne pense pas qu'il s'agisse, pour ces personnalités ou pour ces artistes, de contrôler ou d'avoir peur de ce que les réseaux sociaux peuvent penser ou dire, mais plutôt, au contraire, de permettre, en fait, de faire en sorte que la parole soit entendue, que cette parole soit entendue.
C'est dit. On poursuit ces news médias, Sarah, avec la suite des auditions. Hier, on parlait de l'audition d'Yann Barthès et Pascal Praud et Cyril Hanouna s'en sont donnés à cœur joie sur l'animateur de Quotidien.
Oui, parce que vous le savez, le présentateur de Quotidien était auditionné avec son producteur et deux dirigeants de TF1. C'était hier avec les députés dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le pluralisme dans les médias. Alors, ses concurrents s'en sont donnés à cœur joie pour débriefer ce moment de télévision, quelque part. Cyril Hanouna sur C8 a revêtu la polaire que portait Yann Barthès lors de cette audition. Voilà. Pascal Praud sur CNews a lui raillé ce moment de flottement où l'ancien membre du Grand Journal se perd dans ses feuilles. Il ne s'est ni improvisé, ni même pensé à tacler la star de CNews. Voilà, donc. Et le soir même, Yann Barthès a ironisé, se réjouissant d'avoir fait l'objet d'un bandeau sur CNews.
Oui, voilà, une espèce de gloire, voilà. Un bandeau sur CNews. Vous avez suivi ces auditions? Pas du tout, de loin.
Non, vous savez, moi j'ai un emploi du temps qui est particulier, et déjà j'ai pas la télévision, je lis la presse le matin, et puis, pour... d'ailleurs c'est ironique, vous me receviez dans une émission qui s'appelle Le Buzz TV, moi, vous savez, c'est vrai qu'au sensationnel, au buzz, je préfère toujours effectivement le sens.
Le calme de la lecture.
La prise de distance. Effectivement, mon emploi du temps me force à lire toute la journée. Donc, je ne suis pas le plus apte pour répondre à ces questions, mais je trouve quand même bien, personnellement, qu'on puisse, non pas s'expliquer ou rendre des comptes, mais au moins dialoguer et dire un peu ce qu'on fait.
Moi, comment on fabrique une émission, voilà. C'est ça dont il est question.
Exactement, Sarah. Et moi, si je vous dis un truc, si j'étais invité à parler de la Grande Librairie, je parlerais justement de l'éclectisme.
L'Assemblée nationale.
Des tonalités, des publics, des genres, des sexes,
vous
des origines.
Tout le monde à la
exactement.
Grande Librairie.
Et ce n'est pas donné à tout le monde, une émission. Effectivement, on reçoit à la fois Sylvain Tesson, Alain Damasio, Édouard Louis ou...
Panayotis Pascaud, comme vous l'avez dit.
Ou François Sureau hier, ça me paraît intéressant.
Alors justement, en prenant un peu de recul, le fait que le Conseil d'État et l'ARCOM, au nom du pluralisme, veulent ficher, je mets bien des guillemets, tous les gens qui sont en plateau, puisque c'est le but, dans une émission, dans un débat, est-ce que pour vous c'est une bonne, une mauvaise idée? Vous, par exemple, quand vous allez recevoir des écrivains, si cette loi passe après de l'ARCOM, vous serez peut-être obligé de leur demander pour qui vote, ça vous semble logique de ficher ça?
C'est une question fascinante que vous posez, parce que vous savez, la littérature...
Mais ce sera peut-être une loi bientôt.
C'est le lieu, la littérature, de la nuance et de la complexité. Hier, je recevais sur mon plateau, en direct, dans la Grande Librairie, François Sureau, qui prenait de grandes distances, et c'était d'ailleurs très intéressant, face aux engagements qu'il a pu prendre auparavant. Et donc, on voit bien aussi le droit à la complexité, à la nuance, au changement d'avis, à l'erreur, à l'errance, et c'est quelque chose qui me paraît absolument central aujourd'hui. Le terme fiché, que vous employez d'ailleurs avec des guillemets, est quand même très inquiétant.
Mais c'est aussi pour ça aussi qu'on vous pose la question. Vous pensez que c'est trop manichéen aujourd'hui, c'est tout noir, tout blanc, il n'y a plus trop de place pour la nuance à la télé?
Je pense justement que si la Grande Librairie est pour moi une émission de résistance, c'est qu'elle résiste aussi à ces paroles-là.
Faites un peu figure d'exception, effectivement. On termine ça. Le chiffre du jour, il vous concerne, Augustin, 336 000.
Et oui, c'est le nombre de téléspectateurs qui étaient réunis devant votre Grande Librairie. Ça représente 1,7% de part d'audience. France 5 est 12e du classement derrière RMC Découverte et ses stars.
Alors, c'est à peu près entre 350 et 400 000, autour des 2% de PDA. L'émission a perdu à peu près la moitié de son audience en 5 ans. Je veux juste savoir à quoi vous l'attribuez-vous. Est-ce que c'est la baisse générale, d'ailleurs, de toutes les chaînes télé? Est-ce que c'est une désaffection du public pour les livres? Est-ce que c'est la multiplication des écrans? Est-ce que c'est un peu tout ça, en fait?
Alors, en l'occurrence, pour être très précis, depuis que j'ai repris la Grande Librairie, l'audience non seulement se maintient, mais fait de grandes percées.
En 2018, elle faisait 750 000 à peu près.
Il me semble qu'elle n'était pas le même jour.
Et ça, c'était
quand
jeudi.
Oui, mais c'est quand même intéressant, ça change. Vous savez, qu'est-ce que c'est une audience? Pas à vous que je vais l'apprendre. Ça change perpétuellement et ça peut changer suivant la concurrence, ça peut changer suivant s'il y a une page de publicité sur une autre chaîne, c'est quelque chose de fluctuant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Grande Librairie a un public qui est stable et un public qui achète des livres en librairie le lendemain.
Elle reste
l'émission la plus prescriptrice en termes de livres. Les grands auteurs se bousculent pour venir en premier à la Grande Librairie. Alain Damasio, par exemple, dans 15 jours, a choisi la Grande Librairie pour venir parler de son livre en exclusivité. C'était le cas de Jean-Paul Dubois également il y a deux semaines, qui est en tête des classements. C'est pas pour pour rien, si vous voulez. Et par ailleurs, je me réjouis que France Télévisions et Delphine Ernotte fassent le pari, parce que c'est un pari, de la littérature en prime time sur une chaîne du service public. Vous savez que c'est unique au monde. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas ça en Angleterre, en Italie, en Afrique, aux États-Unis, nulle part. Et ça, pour moi, c'est la France.
L'exception française,
elle se réalise aussi dans le pari du livre. Et moi, je trouve ça formidable, et en cela, si vous voulez, c'est une action, la grande librairie. Alors oui, vous avez raison, c'est un petit public, mais c'est un public qui compte, et c'est une vitrine qui est très importante, je crois. Par ailleurs, absolument, dans la grande librairie, on reçoit toutes les littératures, que ce soit les littératures très populaires de Mélissa d'Acosta ou de Victor Dixen, ou les littératures très exigeantes, comme hier, Pierre Bergougnou ou François Sureau.
Il n'y a aucun snobisme. Il n'y a pas des auteurs. Quand ça vend trop, je pense, je ne sais pas, Joël Dicker.
Mais Joël Dicker, moi, vous savez, je vais vous dire, à la radio, j'ai reçu Joël Dicker, Marc Lévy, Guillaume Musso, Maxime Chattam. Maxime Chattam est venu dans la grande librairie l'année dernière.
Amine Malouf, bien sûr, ou Jean-Marie Ecclésio, par exemple.
Tout à fait. Et qui sont venus dans la grande librairie également.
Sardou, autoportrait, c'est le titre du documentaire inédit exceptionnel qui sera diffusé sur France 3. Vous en êtes à la fois le narrateur, l'intervieweur, Augustin. Je l'ai dit, on verra alors une grande rétrospective de la vie de Michel Sardou, entrecoupée par des chansons, des séquences d'interview que vous avez réalisées chez lui en Normandie. Je l'ai dit, vous racontez son histoire en voix off, beaucoup. Pourquoi intituler ce documentaire Autoportrait ? Vous dites aussi beaucoup de choses vous-même dans le documentaire.
On m'entend pas beaucoup dans le documentaire. Si
votre voix off parsème quand même le documentaire. C'est
oui, d'accord, mais toi, j'étais dans le processus d'interview.
Non, dans l'interview. Voilà, mais dans le.
Vous savez, le premier titre de ce documentaire, c'est le titre d'une de ses chansons, qui est Je ne suis pas l'homme de mes chansons. Moi, c'est ce qui m'intéressait véritablement. C'était de voir Michel Sardou, en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, qui aurait rêvé d'être comédien, et qui, en réalité, accorde une grande place, bien sûr, et qui accorde une très grande place, si vous voulez, au personnage. Il n'est pas l'homme de ses chansons, il est un personnage. Et quand on comprend ça, c'est quelque chose qui le martèle, jusque dans le titre d'une de ses chansons, on prend beaucoup de distance avec toutes ses chansons. Et on comprend qu'il incarne aussi quelque chose, différents personnages, avec lesquels parfois il n'est pas du tout d'accord. Et ça, ça me paraissait intéressant. Donc l'appeler autoportrait, quelque part, c'est brouiller un peu les pistes. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement, chez Michel Sardou, c'est que c'est un homme qui brouille sans cesse les pistes.
Et vous dites en introduction, d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on adore ou qu'on déteste. Pour vous, il a toujours été clivant, Michel Sardou ?
Je pense qu'il incarne, Sarah, pour être très franc, quelque chose de la France. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a parcouru, avec le succès qu'on lui connaît, la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il a suivi, d'ailleurs, où il a juré, quelque part, dans ce paysage culturel et musical. Et il dit quelque chose des Français. Vous savez, c'est le prix Goncourt, Nicolas Mathieu, qui a intitulé un de ses livres « Connemara », où il parle de cette chanson. Ouais. Et qui dit bien, en fait, que « Connemara », c'est une chanson qui est chantée à la fois dans les bals populaires et à la fois dans les soirées HEC. Dans tous les mariages huppés, on chante les lacs du Connemara. Moi, ça me paraît passionnant, parce que c'est un auteur, Michel Sardou, qui traverse, en fait, la France et les classes sociales. Et c'est un auteur, oui, moi, par exemple, souvent, on me dit, mais toi, Sardou, moi, j'ai grandi avec Michel Sardou. Mmh. Je connais certaines de ses chansons par cœur.
Les lacs du Connemara.
Ça fait partie de...
Non, bien sûr, ouais.
La polémique qu'il y a eu avec Clara... C'était Clara Luciani ou Juliette Armanet. C'était... Ça vous a surpris qu'une personne...
Oui, alors, encore une fois, moi, vous me connaissez. Je ne suis pas vraiment dans le buzz. Hein, donc,
c'est
vrai. Pas une des questions que je lui ai posées.
Alors, elle s'est excusée après, paraît-il.
Oui, c'est le problème de ces polémiques et de ces petits buzz. C'est qu'en réalité, ça dure deux jours. Michel Sardou, il ne dure pas deux jours.
Non.
Michel Sardou, c'est ça. Ce sont des décennies. Et cette petite polémique, on ne s'en souvient plus. Par ailleurs, je voudrais noter quelque chose. Michel Sardou, c'est quelqu'un qu'on taxe de conservateur sans cesse, mais c'est aussi quelqu'un qui se fait applaudir par les syndicalistes, par les ouvriers quand ils chantent le France. Et si vous voulez, ce paradoxe-là, cette tension-là, elle est passionnante.
Alors, il aimait beaucoup ses parents, mais il n'a quasiment jamais vécu avec eux. Il dit, dans l'interview, c'est assez fort, qu'il n'a jamais eu la curiosité de les connaître, qu'il a discuté, je crois, 3 heures avec son père dans toute sa vie. C'est évidemment très surprenant, mais dans votre entretien, quand on le voit, on n'a pas l'impression que ça a laissé une blessure chez lui. C'est ce que vous avez ressenti aussi, ce manque de ses parents, en fait, de les avoir connus si peu, d'avoir si peu vécu avec eux. Pourtant, il était attaché à eux, mais...
Je ne suis pas vraiment d'accord. J'ai l'impression, au contraire, que dans ses phrases pleines d'émotion, ses yeux embués, lorsqu'il parle de sa mère, on sent quelque chose qui est de l'ordre d'une faille. Vous savez, les artistes...
Il y a eu un manque, quand même, à un moment.
Oui, puis les artistes, vous savez, ce n'est pas toujours dans leurs paroles qu'ils disent quelque chose. C'est aussi dans leur attitude, dans leur tremblement, dans leurs gestes, dans leur code kinétique, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent. Leur voix, parfois, elle trébuche, elle ment, parfois... C'est ça qui est très intéressant, en fait, si vous voulez, quand on les interviewe. C'est que c'est une parole qui n'est pas fixe, c'est une parole qui est parfois même anarchique. Souvent, ils disent quand même n'importe quoi. Et ça, c'est quand même c'est très vrai. Drôle à interroger.
C'est vrai, justement.
Et vous voulez qu'on fasse le petit questionnaire?
Non, mais il raconte plein de choses, Sardou, justement, Sarah.
Il y a beaucoup d'affirmations dans ce documentaire. Hein. Donc, on va vous proposer un « j'y crois pas ». On vous dit une affirmation, vous nous dites si vous y croyez ou pas. Alors, par exemple, il affirme qu'au moment de choisir sa voix, il n'a pas été influencé par ses parents, donc vous y croyez.
J'y crois.
Ouais, ça vous y croyez.
Qui était pourtant comédien et chanteur, hein.
J'y crois.
Ah ouais.
Ouais, j'y crois.
Il a baigné dedans, mais vous.
C'est étonnant parce que alors effectivement, il les suivait pas partout, mais.
Je pense qu'effectivement, l'héritage du théâtre de ses parents fait partie de lui, mais pour autant, au moment de choisir sa voie, ça veut dire
pas
quoi
influencé.
Exactement
Ouais. Non, mais il dit qu'il y a pas d'atavisme.
Moi, ce que j'ai remarqué, je vais vous le confier quelque chose, parce que vous dites que je l'ai interviewé chez lui, mais je l'ai également interviewé. En région, lors d'un concert qu'il a pu faire. Et ça, c'était passionnant parce que je l'ai vu travailler avec sa répétitrice. C'est quelqu'un qui travaille sa voix. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il bosse comme un fou. Et on voit bien, je vous parlais du comédien Michel Sardou, que sa voix n'est effectivement absolument pas la même que celle qu'il utilise quand il parle. Et que, si vous voulez, c'est aussi une construction, un travail, et un artefact, si vous voulez. Ça, je trouve ça assez fascinant.
Bon, il s'est fait tout seul, effectivement. Il affirme aussi, dans votre interview...
J'ai pas dit qu'il s'était fait tout seul.
Il a choisi tout seul. Il affirme que le succès ne lui a jamais fait péter les plombs. Vous y croyez ou vous ne croyez pas?
Je crois que ce que vous mettez en exergue, et y compris avec ce quiz, ce sont aussi les paradoxes de Michel Sardou.
Bah oui,
c'est les contradictions, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais moi, c'est ce que je trouve passionnant. Au demeurant, on a quand même le droit de changer d'avis, même d'un jour sur l'autre.
On
a encore le droit de dire n'importe quoi. On a encore le droit d'être dans l'errance. Est-ce que c'est pas jouissif aussi? Est-ce que c'est pas fatigant, ces gens qui pensent de façon complètement monolithique et qui vous répètent les mêmes éléments de langage tous les jours, y compris dans leur tweet de 280 signes. Est-ce que c'est pas beau, la parole anarchique de l'artiste?
C'est vrai.
Il affirme être contre la peine de mort. J'y crois pas, Augustin.
Ben moi, j'y crois parce que sa chanson...
Il avait écrit une chanson pour. Hein,
voilà, c'est ça. Ben, encore une fois, cette chanson-là, si vous voulez, qu'il ne chante plus, était la chanson d'un personnage, ce qu'il dit volontiers. Donc moi, j'y crois, si vous voulez. Et j'y vois même un argument pour parler de Michel Sardou, le comédien, qui n'est pas l'homme de ses chansons.
Mm. Alors, il affirme aimer le heavy metal et être déjà allé au concert, au festival Hellfest.
Bah, écoutez, vous le croyez dit.
Alors, non seulement... Ça paraît dingue, ça, quand
alors,
même.
Non seulement,
vous l'avez cru.
Vous aviez bien vu quand il me l'a dit, j'ai fait comme ça dans le documentaire.
Oui.
Mais vous êtes un métalleux, Michel. Je lui ai dit, mais vous aimez Gojira. Ah, j'étais surpris,
Il affirme qu'il n'a pas été un bon père.
J'y crois aussi. J'y crois aussi et je trouve que c'est même un des moments des documentaires les plus émouvants.
Oui. Il exprime des regrets, il dit peut-être dans ma prochaine vie,
C'est quelque chose quand même de dire cette phrase. C'est terrible ce que ça peut comporter comme bagage, comme pierre en fait, que l'on traîne, de dire cette phrase. C'est un aveu très fort. J'ai senti effectivement chez lui...
Vous l'avez senti qu'il vacillait peut-être pendant l'entretien?
Ah oui, à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il était mu à plusieurs reprises dans l'entretien. J'ai senti également que s'il avait réussi incontestablement quelque chose de l'ordre de sa carrière, il y avait des failles, comme je vous le disais tout à l'heure, et des failles de l'ordre intime qui me paraissaient intéressant d'aller fouiller.
Cette émission file, Augustin, je vous propose qu'on parle un peu de La Grande Librairie, une émission littéraire de France 5 que vous présentez tous les mercredis soirs. Vous avez succédé il y a presque deux saisons maintenant à François Bunel. Alors, il y a cette passion du livre auquel on ajoute aussi la BD, les mangas qui en font partie aujourd'hui. C'est vraiment ce que vous voulez transmettre, Augustin, et le fait d'être en direct quasiment tout le temps, je crois que vous faites les trois quarts du temps en direct, les émissions, c'est important pour vous?
Alors, le direct, c'est un pari. C'est un pari que je trouve très intéressant. Vous le savez, les émissions d'accueil
en
direct, en prime time, il n'y en a vraiment plus du tout.
En accès, un peu, en prime time, il y en a quasiment.
Voilà, c'est ça. Et donc ça me paraissait absolument important, si vous voulez, de mettre ça en exergue. C'est aussi une tradition de l'émission d'accueil, héritée des seules personnes que j'avais le droit de regarder à la télévision quand j'étais petit. Et je pense évidemment à Bernard Pivot, évidemment, qui était mon modèle et qui reste encore une fois un mentor. Tout comme les François Bunel, vous savez, moi, Je suis très heureux. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, de me donner la grande librairie. J'étais enseignant, j'étais prof de littérature. J'ai fait toute ma carrière.
J'ai une émission de littérature sur Canal+, hein, qui s'appelait 21 cm,
oui,
qui était aussi une émission.
Et puis j'avais, surtout, j'ai commencé ma carrière avec une émission sur France Culture qui s'appelait Le Carnet d'Or, qui était une émission effectivement littéraire également. Et puis je viens de là, j'ai enseigné la littérature. Et donc c'était un rêve de revenir à ces vieilles amours. C'était vraiment un rêve. Et puis dans une émission qui est quand même mythique, qu'on le veuille ou non, unique dans le monde entier, comme je vous le disais, mais également de résistance sur le PAF aujourd'hui. Vous citiez dans votre revue de presse d'autres émissions. La Grande Librairie n'a rien à voir avec ces émissions. C'est une émission en décalage. Le fait même, si vous voulez, de prendre du temps, de prendre de la hauteur, le fait même de recevoir...
Ouais, c'est ça. Quotidien, l'heure des pros.
Ça, c'est de la résistance, moi, je trouve. C'est une autre façon de proposer. C'est une autre télévision qu'on propose.
Et vous pouvez proposer d'ailleurs des choses très différentes. Je crois qu'il y a une spéciale Rwanda qui vous tient très à cœur la semaine prochaine. Vous avez souvent des émissions thématiques comme ça, Augustin.
Alors, moi, j'aime pas beaucoup le mot thématique. Là, c'est l'universitaire qui va parler. Pour moi, si c'est pour faire une thèse sur la mer dans
le roman de voyage... Non, mais vous l'avez fait autour de Colette, de Camus, voilà. Vous faites parfois autour d'un écrivain.
Ça sera toujours une question, et ça sera toujours une question qui sera aussi un enjeu d'écriture. En l'occurrence, le Rwanda, ça me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une émission qui va être sur la mémoire, qui va être sur l'écrit, qui va être sur le discours, qui va être sur les mots qu'on ne peut pas dire, et que seuls des romanciers, en l'occurrence des survivants romanciers, vont parvenir à dire. Ça me paraît absolument important. Et c'est un devoir de mémoire qu'on a et qu'on porte, y compris dans la Grande Librairie, à travers des textes de littérature, mais également à travers la parole d'une historienne, Annette Becker, et à travers la parole d'un grand journaliste qui est Patrick de Saint-Exupéry, et qui a été très important, y compris quand il a rappelé la responsabilité de la France auprès du gouvernement génocidaire. Ça va être important de le rappeler, le courage de Patrick de Saint-Exupéry et la parole des survivants, qu'on peut enfin entendre 30 ans après.
Alors, aussi, le 17 avril, hein, France 5 diffusera la grande dictée des Jeux que vous animerez. Il y a 3000 participants, 3 dictées, 3 niveaux.
Au champ de Mars, c'est impressionnant.
C'est assez impressionnant.
Et on enregistre le 12 mars. Venez tous.
C'est parce que les Français sont nuls en orthographe que
pas du tout.
vous vous êtes donné cette mission.
Non, je vous parlais de Bernard Pivot, c'est une tradition. Hein. Donc, je suis très heureux que ça apparaisse et que ça intervienne dans notre case de la Grande Librairie, parce que c'est cette tradition-là que j'ai envie de perpétuer. Vous savez, c'est mon modèle, c'est mon mentor, c'est pas pour rien. Par ailleurs, la dictée, c'est pour moi, et ça l'a toujours été, un jeu de société. Et un jeu de, littéralement, et un jeu de société, si vous voulez, alors dont certains se moquent, hein. Je trouve ça dommage, moi, parce que c'est un jeu de société qui est une exception française, là aussi, et moi j'y tiens, un jeu de société qui défend notre langue et qui défend également la rigueur, ce qui me paraît extrêmement important dans l'éducation, là c'est l'ancien prof qui parle, et puis la beauté de texte de littérature française.
Ils ont été écrits par Agnès Martin-Lugan, David Fuenquinos et Marc Lévy, hein. Et il y a trois niveaux, c'est ça, il y a débutant, on va dire, normal, et pro.
Alors moi, j'essaierai de faire la dictée, on verra, Nicolas, ça va, ce que je donne.
Niveau brevet, peut-être.
J'étais pas mauvais quand j'étais petit, mais on sait pas.
C'est vrai que le niveau orthographe a beaucoup baissé, on le voit partout, le SMS, le texto, dans les mails, on voit des fautes d'orthographe absolument terribles, et un autre langage qui sort. Vous êtes plutôt ouvert à ça aussi, au fait que la langue évolue, ou il faut aussi maintenir des traditions.
D'abord, je voudrais vous remercier, parce que contrairement à beaucoup de journalistes ou de personnes qui commentent ces questions en disant on n'est plus dans une civilisation de l'écrit, vous notez à juste titre qu'on est toujours dans une civilisation de l'écrit, mais que l'écrit, effectivement, comme toute langue vivante, en fait, est en train de se métamorphoser. Écoutez, moi, je l'intègre évidemment à mes réflexions. Moi, je suis journaliste, je me pose des questions tout le temps. Au demeurant, je salue, respecte et aime plus que tout la beauté de la langue française, la rigueur et la complexité de ses phrases, de sa grammaire, de sa syntaxe, la richesse de son vocabulaire. Et le seul conseil que je pourrais donner aux parents qui s'inquiètent, hein, parce que c'est quand même ça, le fond de l'affaire, c'est de lire. Et de lire devant leurs enfants. Vous savez, il y a une solution qui est très simple. La démonstration, ça marche pas. La monstration, ça marche toujours. Vous mettez à côté de votre enfant et vous êtes en train de lire, je peux vous dire qu'il va faire comme vous. Hein. Il va vous imiter et il va lire.
Nous recevions Darius Rochebain qui avait une très bonne question à vous poser. On voulait vous la montrer, regardez, puis on espère que vous y répondrez ensuite.
J'ai toujours été très impressionné, c'était une de vos précédentes émissions, je ne sais pas si c'était tourné chez vous, mais je crois, de votre bibliothèque. Vous avez une immense bibliothèque blanche, si je me souviens bien, en couverte, le mur couvert de livres. Je ne sais pas, est-ce que vous jetez des livres ? Parce que je sais que c'est un tabou pour beaucoup de gens, et en même temps, quand vraiment il y a un livre qui ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous faites des livres que vous ne lisez pas ? Voilà.
Très bonne question.
Très bonne question,
oui, ça
non, mais c'est une très bonne question,
Sarah.
Vrai, en fait, je vous me donnez l'occasion de
vous
le dire.
Vous n'avez pas une place infinie.
Et je vous en remercie. Je suis le parrain depuis 6 ans d'une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, qui défend l'information, l'éducation et la culture en France et dans le monde entier auprès des plus vulnérables, dans des situations d'urgence. Et une des façons de donner, c'est de les contacter et de donner des livres. Moi, je reçois beaucoup de livres. C'est vrai que la biographie de Rika Zaraï, je ne vais pas la recevoir dans la grande librairie pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle n'est plus là, et puis ensuite parce que ce n'est pas forcément ce qu'on va essayer de mettre en avant, même si on essaye de mettre en avant toutes les littératures. Je donne beaucoup de livres à Bibliothèques sans frontières. Et parfois.
Vous ne jetez aucun livre?
Ah ben non, je ne les jette pas. Et pourtant, je reçois beaucoup d'épreuves. Et moi, je garde les épreuves pour les gens qui ne savent pas. C'est les livres qu'on reçoit bien en amont, qui n'ont souvent pas de couverture. Et ma bibliothèque, en fait, est remplie d'épreuves.
Ah, d'accord.
Et Dorius notait à juste titre que ma bibliothèque est blanche, parce que pour moi, c'est une façon de montrer aussi la couverture des livres. Pour moi, c'est plus beau qu'un tableau. Mmh. Quand on voit des livres comme ça dans un appartement, c'est la première chose que je regarde, moi, quand je vais chez quelqu'un. Bah, c'est tout son monde, en fait. Ses fantômes, son passé, sa passion, qui il est.
Combien de livres vous avez?
Je perçois. J'en ai 12 000.
12 000
je
chez
dis
vous
parce que
ouais,
je les ai,
quand même, c'est pas
je les ai répertoriés.
Ah, ils sont classés?
Ah bah oui, par ordre alphabétique. Parce que moi, je suis de la vieille école.
Auteur ou titre?
Titre.
Non, wow. Titre. Ah ouais, titre. D'accord.
Et je suis de la vieille école. Ah non, pardon, ils sont classés par ordre alphabétique d'auteur.
Oui.
Et je pensais que vous me demandiez si j'avais 12 000 auteurs. Non, là, ça fait
non,
beaucoup.
Non, donc par auteur.
Voilà, on va faire un tour chez vous, ça doit être impressionnant.
Venez, venez.
Merci Augustin Trapenard d'être passé nous voir.
C'était super.
Je rappelle qu'on vous retrouve sur France 3 avec le documentaire exceptionnel consacré à Michel Sardou, Sardou Autoportrait. Chaque mercredi, c'est la Grande Librairie sur France 5. Et on rappelle également l'excellent ouvrage de notre confrère hein, Florent Baracco, paru aux éditions P1. Michel Sardou, vérité et légende, si vous voulez tout savoir sur ce monument de la chanson française. Merci Sarah, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.
Je rêve d'une lune de miel en Polynésie.
Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon.
Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée.
Alors, je vous propose une matinée avec les Raymantas avant de partir observer les baleines à Tahiti.
Oh, ne me réveillez surtout pas.
Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble.
Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout?
Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre.
Vous faites les mariages aussi?
Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.